mercredi 18 janvier sur Colline, édition de la mi-journée, midi 2. On passe à toute l'info près de chez vous. Elle est présentée par Fabien Gazon. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. Avec 40 000 véhicules par an d'ici 5 ans, un investisseur affiche de grandes ambitions après la reprise de No Smoke à Cerizay. Les services des urgences sont sous tension. Illustration hier à l'hôpital de Cholet avec une action des personnels soignants. Le collège Supervielle regarde en face la réalité du harcèlement. Élèves et personnels encadrants sont concernés pour y remédier. Une soirée d'information sur les méga-bassines. Ce jeudi à Cerizay, les anti-bassines y développeront leurs arguments et ils ne manquent pas. Enfin, nous vous présenterons la nuit de la lecture ce vendredi à Thouars. L'arrivée d'un nouvel investisseur à Cerizay, l'entreprise Kate, vient en effet de racheter la société No Smoke, qui depuis une dizaine d'années a produit des petits véhicules du même nom, à hauteur de 1500 exemplaires, sorte de Méhari électrique. Le directeur général de Kate, Mathias Goldenberg, interrogé par Patrice Bémanangy.
Je viens du monde des startups avant, j'ai travaillé chez Valeo, je suis hyper excité de croiser l'environnement industriel avec le savoir-faire, et puis on est hyper content de lancer ça dans la région des Deux-Sèvres, de profiter de tout l'écosystème, de tout le savoir-faire, de tout l'héritage aussi de No Smoke et de tout le personnel qui a mis beaucoup d'énergie pour faire vivre cette petite marque. Et on va essayer de faire quelque chose de grand avec cette bel héritage qu'on a acheté.
Et c'est la production de la No Smoke produite à Cerizay avec une version améliorée baptisée l'Original va se poursuivre. L'objectif pour la société Kate est de produire dans les mois qui viennent un nouveau véhicule plus urbain pour les trajets du quotidien au nom de code Kawan. Mathias Goldenberg.
Kawan, lui, ce sera un véhicule qui sert à l'usage du quotidien, c'est-à-dire 98% des trajets des Français. Et donc ce véhicule, lui, sera beaucoup plus abordable. Il sera à moins de 15 000 euros en premier tarif, avec 200 km d'autonomie. Et donc ce véhicule, lui, il servira pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller travailler, pour aller faire des activités. Ce sera fait exprès avec des grandes portes pour être accessible. On a même pensé à mettre un petit marchepied à l'arrière pour améliorer l'accessibilité. Et donc évidemment, c'est un véhicule fermé, hein, contrairement à l'Original qui est un véhicule de loisirs complètement ouvert. L'idée pour Kawan, c'est d'en produire 40 000 par an d'ici 5 ans. Donc on passe de 200 véhicules produits par an à 200 véhicules produits par jour, c'est ça l'objectif d'ici 5 ans.
L'ambition du directeur général de Kate, qui vient donc de racheter No Smoke à Cerizay. Placé en garde à vue hier matin, le maire de Cholet, Gilles Bourdelex, a passé la nuit en cellule au commissariat d'Angers, tout comme Benoît Martin, son associé au cabinet d'avocats et ancien conseiller municipal. Deux autres élus, dont son épouse, sont aussi en garde à vue et ont connu le même traitement, indique Ouest France. Aucune information n'a filtré sur le motif de cette enquête ouverte par le parquet d'Angers. Partout en France, les services des urgences sont sous une extrême tension entre l'afflux croissant de patients causés par une triple épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite et la grève des médecins généralistes et la difficulté de trouver des lits. Les soignants sont épuisés et à court de solutions. Pour dénoncer cette situation, des personnels des urgences de Cholet se sont allongés sur le parvis des admissions hier après-midi. Franck Boucher y est infirmier.
On veut montrer un petit peu qu'on aimerait être soutenu un petit peu par l'État et puis qu'il y ait quelque chose qui soit fait, une politique réelle de santé publique sur tous les hôpitaux, plutôt que de laisser couler cet hôpital public qui était censé être à l'origine hein, quelque chose de formidable que tout le monde nous enviait. Là, je vois pas trop ce qu'il y a à envier à l'hôpital. Ce qu'on voudrait dire, c'est surtout que les soignants, à force, s'épuisent, et le fait que les soignants s'épuisent, ils partent, et le fait qu'ils partent, il y aura plus de soignants, ou en tout cas des gens qui seront soit pas motivés, soit qui seront inexpérimentés, et c'est un travail collaboratif, en fait, on travaille tous ensemble. On est des infirmiers, des aides-soignants, des agents, des médecins, et en fait, on travaille vraiment tous ensemble. Le risque, c'est que tous les soignants partent, quoi. Et c'est ce qui commence déjà à arriver. Si on perd toute cette expertise, la difficulté, c'est que les gens, quand ils vont venir, ils seront soit mal soignés, soit pas soignés.
Une action symbolique pour dénoncer les conditions de travail du personnel des urgences qui espère trouver du soutien parmi la population. Lydia avait fait le déplacement en voisine.
Parce que je trouve que c'est important d'avoir un hôpital dans une ville. Donc il faut soutenir et il faut montrer qu'on tient à cet hôpital et on tient aux gens qui y travaillent.
Des gens qui sont en détresse.
Hein. Oui, ça c'est terrible. Hein. C'est terrible. On se pose des questions, est-ce que quelque chose va être fait pour les aider ? C'est difficile.
Voilà, propos recueilli hier par Vincent Nori devant l'hôpital de Cholet. Le récent suicide du petit Lucas, 13 ans, nous rappelle une fois encore les drames liés au harcèlement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On estime qu'en France, un élève sur 10 en est victime. Comment peut-on agir, réagir face à ce fléau? Au collège Supervial de Bressuire, la communauté éducative associée aux élèves a mis en place le dispositif Superveille. Il fonctionne depuis 5 ans maintenant et 64 élèves et 30 adultes ont été formés aux postures à adopter. Explication avec Marie Écolant, enseignante à Supervial, au micro de Jacqueline Pinon.
On forme une équipe très soudée de ressources où pendant les 4 jours, on va mélanger théorie et mise en situation pour comprendre les mécanismes de fonctionnement du harcèlement et essayer de réfléchir aux solutions qu'on peut trouver pour mettre fin à ces situations.
Lutter contre le harcèlement, ça ne s'improvise pas.
Non, on le voit au quotidien, il faut être outillé. Spontanément, les élèves vont avoir tendance à jouer les super-héros, ce qui ne fonctionne pas du tout et ce qui est même dangereux. Donc nous, on attend vraiment des élèves qu'ils soient un soutien aux victimes et aussi qu'ils aillent voir les spectateurs pour faire bouger aussi les spectateurs, puisqu'on sait qu'il y a un énorme effet de groupe, que si on réussit à renverser le mécanisme du groupe, ça peut tout changer pour la victime.
Victorien Loison est aujourd'hui un quatrième. Le harcèlement, il connaît, il en a souffert. Alors quand on évoque le suicide de Lucas, il répond sans filtre, les idées noires, très noires, on en a tous quand on est harcelé. Heureusement, on m'a tendu la main et aujourd'hui, c'est moi qui aide les autres. Victorien, toujours au micro de Jacqueline Pinon.
Alors plus jeune, en sixième, je me suis fait harceler et donc je connais comment les victimes peuvent souffrir et à quel point. Donc je veux les aider et être là pour les soutenir et leur donner les outils pour s'en sortir.
Ça t'a semblé évident, toi, d'agir?
Oui.
Je prends la parole et je dis.
Oui. Oui, je me sens plus fort et par mon parcours, je sais qu'il faut pas baisser les bras et qu'il y a toujours des solutions.
Et comment tu expliques que tu as eu, toi, cette résilience? C'est parce que tu as été bien accompagnée?
Oui, tout à fait. On m'a tendu des mains, on m'a donné des outils. C'est comme ça que je m'en suis sortie.
Et tu es fière de toi aujourd'hui?
Oui, très.
Et prêt à accompagner les autres, surtout?
Oui.
Sensibilisation dès la sixième avec des heures dédiées pour comprendre les mécanismes du harcèlement. Jus d'orange ou chocolat contre un sourire, flash mob, les animations se succèdent avec un postulat. C'est le bien vivre ensemble qui doit primer. Quand il y a problème, on propose des solutions, on prévient un adulte et on intervient auprès de la victime. Et quand la victime n'ose pas parler, la boîte aux lettres pour faire passer ses messages est aussi une solution pour faire part de sa souffrance. C'est Victorien qui la consulte et nul doute qu'il a désormais toutes les clés pour intervenir à bon escient. Vous écoutez Colline, il est midi 10. Une conférence sur les méga-bassines ce jeudi soir à Cerizay. Le collectif citoyen Nord de Sèvres et la Confédération Paysanne organisent en effet une soirée d'information sur les bassines qui cristallisent les tensions sur le sud de Sèvres. Pour Philippe Coutant, il est important d'informer le grand public afin de peser in fine sur les pouvoirs publics et politiques.
On a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de scientifiques d'hydrologues qui ont commencé à sortir du bois après les dernières manifestation de Sainte-Soline et qui nous fournissent énormément d'éléments. Et je pense que notre rôle, c'est de faire un travail d'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est de partager un peu ces informations pour pouvoir permettre à ce que les gens se fassent une opinion sur cette situation-là. Et c'est peut-être aussi à ces citoyens, à ces contribuables, d'aller interpeller leurs élus, parce que un des gros financeurs de ces méga-bassines, c'est l'Agence de l'eau. On est tous consommateurs de l'eau, on a tous une taxe qu'on paye l'Agence de l'eau, et cette Agence de l'eau va financer. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un regard des politiques en disant, mais il y a peut-être d'autres choix à faire, à ce que cet argent public puisse servir à autre chose. Il va falloir continuer à interpeller les politiques sur quel type de développement agricole ils souhaitent défendre.
Quatre intervenants, tous opposés aux bassines, développeront leurs arguments. Il y aura Benoît Biteau, député européen, Jean-Jacques Guillet, ancien maire d'Amuret, Benoît Jaunet, porte-parole de la CONF et un représentant de la Ligue des droits de l'homme. L'eau est un bien commun, rappelle Kevin Certenay.
C'est un bien commun et là, il y en a 5% d'agriculteurs sur le département qui essayent de s'accaparer une grande partie de la ressource, quoi. Et donc, voilà, c'est un bien commun et en effet, en face de ça, on parle d'une privatisation de l'eau, quoi, en fait. Donc c'est deux modèles, deux façons de voir la société qui sont antagonistes, quoi. Donc du coup, faut pouvoir au moins être informé pour pouvoir se positionner sur quel monde on veut.
Soirée d'information sur les méga-bassines ce jeudi à 20h30 à la salle de la Griotte de Cerizay. L'entrée est libre. La nuit de la lecture proposée par la médiathèque de Thouars. Vendredi, la médiathèque est à nouveau sur les rangs de cette 7e nuit de la lecture. Une façon de faire découvrir l'établissement sous un jour nouveau, ou plutôt sous une lune différente, comme l'explique Amandine Gruau, la responsable du service aux micro-collines de Dominique Hérault.
Le thème national, c'est la peur. On a profité de ce thème-là pour faire une soirée un peu surprise. On aura pour tous les publics à la fois une partie bricolage avec des petites créations de marque-pages qui vont pouvoir être proposés aux enfants à partir de 4-6 ans. Une lecture pyjama pour les enfants à partir de 4 ans sur le thème de la peur. Et puis des surprises autour de blind test, voilà, qui sont préparées par la section musique pour s'amuser ensemble autour de ce thème. Donc on commence à partir de 18h pour le public familial, on va dire. Et après, pour les ados adultes, à partir de 20h30, on aura une projection d'un film dont on garde la surprise sur le thème de la peur pour découvrir une sélection que nous a proposée Arnaud, notre bibliothécaire en charge du cinéma. La nuit de la lecture, c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui. Ça a trouvé son public et on a toujours essayé de proposer des choses un peu atypiques dans les ambiances lumineuses, dans ce qu'on proposait. Donc c'est aussi une manière de découvrir la médiathèque différemment, un petit peu dans le noir, un petit peu mystérieuse, de découvrir des espaces cachés. Voilà. Donc c'est vrai que ça trouve son public parce qu'on est dans une proposition un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude.
Découvrir la médiathèque autrement, c'est l'objectif immédiat car l'établissement prépare son déménagement au cœur de la rue Porte de Paris à l'ancienne Société Générale, où elle devrait s'installer au printemps 2025 après un énorme chantier de rénovation dont le coût de 7 600 000 euros peut faire frissonner lui aussi. D'ici là, le grand frisson, c'est pour le vendredi 20 janvier lors de cette 7e nuit de la lecture prometteuse de surprises, de contes fantastiques, de science-fiction ou de polar. L'entrée est gratuite, mais il est prudent de réserver. Reportage de Dominique Hérault. Deux événements au Camji à Niort cette semaine. Le vernissage de l'exposition des photographies du festival Le Quatrième Mur ce mercredi à partir de 19h et le premier afterwork de l'année avec l'artiste reggae blues Ledenf ce jeudi. Un mot de sport en handball, Celles-sur-Belle joue à Saint-Amand-les-Eaux ce soir en championnat avec l'objectif de remporter une première victoire en 2023. Les Celloises sont 9e et Saint-Amand est 12e. En rugby, Fabien Galtier a retenu le Thouarsais d'origine Thomas Lavaux dans la liste des 42 joueurs pour disputer le tournoi des 6 nations. En football, Quentin Bernard fait son retour au Chamois-Niortais quelques jours après avoir rompu son contrat avec la JOCR où il ne jouait plus depuis le départ de Jean-Marc Furlan à 33 ans. Il revient dans le club qui l'a formé et qu'il a quitté en 2015. Le latéral gauche aura joué en Ligue 2 et en Ligue 1 sous les couleurs de Dijon, Brest et Auxerre.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Alternance d'éclaircies et de passages nuageux cet après-midi, ces derniers étant plus importants que prévu initialement. Quelques flocons de neige sont possibles en soirée sur le nord du département. Les températures maximales 5-6 degrés. Demain, on retrouve des températures négatives au petit matin, puis un ciel voilé tout au long de la journée de jeudi. Les défilés de manifestants devraient pouvoir rester au sec. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Toute l'info, l'édition de la mi-journée à l'instant sur Colline. Toute l'info près de chez vous avec Fabien Gazot. Merci beaucoup Fabien, je vous souhaite un bon après-midi en musique sur Colline et je vous retrouve à 17h. Ciao.
Colline.